Chronique extraordinaire de vie ordinaire. L'été touche à sa fin, au pied de la montagne rouge aux reflets dorés, tapissée de taches vert olive. La montagne s'élève en majesté, indifférente aux remous du monde, aux éléments changeants, vent, neige, pluie et chaleur de plomb qui érodent, nivellent ses aspérités ou en créent de nouvelles. Accrochée à la roche, la maison d'accueil de Lina ouvre ses portes. Lina s'active en ce matin d'azur au ciel bleu profond. L'air est pur, une belle journée s'annonce. Lina, elle est venue s'installer dans le village, dans la maison de ses ancêtres, à la mort de son grand-père dont elle a hérité. Elle s'était demandé ce qu'elle pourrait bien faire de cette maison en terre, elle, la citadine, éduquée en ville, partie faire des études au-delà de l'océan. Là-bas, elle avait connu le travail de cadre en entreprise, les semaines en apnée, les week-ends sans avoir le temps de recharger les batteries, salle de sport et brunch obligatoire, se fondre dans la masse, suivre le rythme, ne pas sombrer dans une oisiveté honteuse. Pas de temps pour la contemplation, l'introspection. Les corps, toujours en mouvement, procuraient l'illusion que rien ni personne ne pourrait arrêter les rouages de la machine. L'illusion que ne jamais s'arrêter, c'était s'accomplir et gagner. Et puis, un matin, elle s'était réveillée et n'avait pas pu se lever. Son corps, immobile et douloureux, lui avait ordonné de changer de vie. Elle était revenue dans son pays, avait travaillé dans une banque et s'était ennuyée. Jusqu'à l'héritage. Et l'idée avait germé que se poser au pied de la montagne et accueillir les randonneurs de passage dans la demeure de terre ocre, ça pouvait être bien. Elle l'avait nommée l'aurore bleutée. Depuis, l'aurore bleutée est devenue un point de passage apprécié des visiteurs du monde entier. En ce matin au ciel bleu d'azur, Lina se rend au marché du village pour faire des courses pour deux couples de voyageurs partis à l'aube gravir la montagne rouge aux reflets dorés. À son retour, elle demande à Sarah, cuisinière hors pair qui travaille avec elle, de préparer pour le soir un de ces plats aux mille saveurs dont elle a le secret. Sarah s'inquiète pour sa fille de 5 ans. Elle n'est pas allée à l'école le matin car elle était fiévreuse. Elle est chez sa grand-mère à 3 maisons de là. Elle espère ne pas rentrer trop tard pour s'occuper d'elle. Lina lui promet qu'avant le coucher du soleil, elle la retrouvera. Lina va ramasser dans le potager quelques légumes. Sarah a apporté de son jardin des plantes aromatiques plantées par son grand-père guérisseur. Romarin, thym et le meilleur basilic du village, le plus suave, le plus parfumé. Les voyageurs arrivent au soleil couchant, exténués par leur périple. Ils dînent avec plaisir. Heureux de partager un bon repas sur la terrasse qui surplombe la vallée verdoyante où coule la petite rivière. Ils se retirent dans leur chambre sans prendre le temps de contempler la voûte étoilée qui s'offre à eux. Après le repas, Lina s'affaire dans la cuisine. Sarah est rentrée retrouver sa fille. Le chat, habituellement assoupi sur la chaise en paille près du four à pain, s'agite et miaule sans cesse. Il a pourtant bien profité des restes du repas. Lina se dit que c'est décidément un chat de luxe. Elle regarde le ciel par la petite fenêtre ouverte et se dit que, décidément, la vie est un cadeau dans ce petit coin de paradis, qu'elle a enfin trouvé sa place. Et puis, soudain, la lumière s'éteint. Un bruit assourdissant retentit dans l'obscurité, comme 1000 tonnerres au loin qui approchent à grand galop. Lina se dit qu'un nouvel orage a dû éclater, plus monstrueux encore que le dernier, que la vague va arriver, les inondations vont encore emporter les routes, ils resteront bloqués. Elle sent dans la pénombre un nuage de poussière qui s'élève, une poussière âcre qui lui racle la gorge et la fait tousser, elle a du mal à respirer. Elle se dirige vers le salon à tâtons dans l'obscurité pour récupérer les torches posées devant la porte d'entrée. Elle bute contre des objets tombés du chambranle de la cheminée. Elle reconnaît le candélabre en argent, des morceaux de terre cuite d'un plat décoratif. Elle tangue, ne comprend pas pourquoi ce vertige la saisit. C'est le sol qui la secoue et qui gronde. Les murs vacillent. Elle entend les cris des voyageurs dans leur chambre, comme des chants d'outre-tombe. Ils sont certains que la montagne est en train de s'écrouler, que c'est l'apocalypse. Ils ne savent pas où aller. Elle leur donne une torche, les guide à l'extérieur vers la route qui longe la maison et les rassure. « Regardez, la montagne est toujours en place. » Elle leur donne des couvertures. Ils dormiront dehors. Elle retourne dans la cuisine et voit sur le sol les objets éparpillés. L'onde a posé sa signature sur les murs, recouverts ici et là de fissures. Parmi les objets sur le sol, elle voit les deux poids en fonte de la balance posée au-dessus de la vieille armoire en bois. Elle se trouvait là, à quelques centimètres, elle, Lina, il y a une minute, deux poids de 5 kilos tombés à ses pieds. Elle tremble, court vers la maison de Sarah. Le réseau est coupé, il faut aller voir. Elle entrevoit, à l'éclairage de la bougie, un amoncellement de gravats. Quelques murs ont tenu, mais l'essentiel s'est effondré. Elle crie, elle les appelle dans la nuit. L'écho de sa voix rebondit sur les parois de la montagne et lui revient, encore plus déchirant, il ne trouve aucune réponse. Des voisins errent sur la route, hébétés. Ils disent que la terre peut encore trembler, qu'il ne faut pas rentrer chez soi. Elle leur demande s'ils ont vu 3 femmes, une vieille, une jeune et une petite fille. Ils ne savent pas. Ils n'ont rien vu dans la pénombre. La nuit est interminable. Le matin est à peine une rumeur dans la nuit. Un des voyageurs lui propose son téléphone longue portée. Il est guide de haute montagne et l'emporte pour ses expéditions. Elle peut communiquer. Enfin. Elle ne sait pas par qui commencer. Elle appelle Sarah, mais la sonnerie retentit dans le vide. Elle appelle sa mère dans la grande ville. Sa mère la supplie de venir se mettre à l'abri. Lina l'écoute et la rassure. Plus tard, elle verra. Elle s'affaire à remettre en place les objets éparpillés. Son téléphone est brisé, hors d'usage. Les voyageurs repartent. Ils espèrent pouvoir passer, que les routes ne seront pas coupées. Ils fuient et elle les comprend, s'éloigner de la catastrophe, la remiser dans un coin, éloignée. L'odeur de poussière âcre et le bruit de tonnerre accompagne désormais les nuits de peu de sommeil de Lina. Elle passe devant la maison de Sarah tous les jours. Les pompiers ont fouillé sous les débris, ils n'ont rien trouvé. Lina retourne dans la grande ville. Elle s'y installe pour quelque temps. Elle a trouvé un travail dans une association d'entraide. Un matin, elle prend un taxi pour se rendre au marché. Il longe les étals des marchands venus des campagnes, recouverts de fruits et de légumes de leur potager. Une planche recouverte d'une montagne verte de bouquets de basilic attire son regard. Elle demande au taxi de s'arrêter. Elle sort, elle court. Derrière l'étal verdoyant, c'est bien elle, c'est Sarah. Elle la serre dans ses bras. Elles sont figées dans leur étreinte, se touchent pour se prouver qu'elles sont bien là. Sarah lui dit que le soir où la terre a tremblé, elle avait emmené sa fille chez le médecin dans la grande ville, était restée la nuit chez son frère. Elle avait essayé d'appeler Lina en vain. Elle était retournée au village plusieurs semaines après, le temps de se préparer à affronter le pire. L'aurore bleutée était fermée. Mais toujours debout, férocement accrochée à la montagne. Elle était rassurée. Lina, comme l'aurore bleutée, avait survécu, c'était certain. Et à cet instant, dans les effluves de basilic, avec Lina et Sarah, blotties l'une contre l'autre, au plus chaud de leur présence vivante et intense, rien ne vaut la vie. Non loin de la montagne rouge aux reflets dorés qui nous toise avec arrogance. من زيني يا ميلي نشكر الحار والمار علي نصبر العمار رزاق معدودة القدر والدهر يعقب فيه لا نكسب رزقي البيت فيها نغرس قلبي
cerise.